ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Enfin, Radio Zone, le remue-ménage s'est éteint. La lune monte dans vos oreilles malgré ce ciel gris, froid. Ça, c'est vraiment l'hiver, la neige. Mais ça fait rien, la lune est dans vos oreilles, la chaleur. Aussi avec 93.8 MHz, comme tous les mercredis soirs, c'est la pleine lune sur Radio Zone. Au programme ce soir, dans quelques instants, les nouvelles, les informels de la pleine lune, suivis des coups de cœur de Marjolaine, qui cette semaine a un cœur gros comme ça. Alors, à tout de suite pour les nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, son femme Radio Zone, nos nouvelles. Alors que la conférence sur la faim dans le monde organisée par la FAO s'est terminée à Rome sur un constat d'échec, en Inde, des femmes protestent contre le fast-food qu'elles accusent de détruire les ressources locales. C'est ainsi que, par exemple, Vandana Shiva, que l'on connaît bien, l'environnementaliste qui dirige une fondation pour la science, la technologie et les ressources naturelles à New Delhi, elle considère que l'arrivée des chaînes de fast-food en Inde est une atteinte à l'agriculture durable du pays. Je la cite, « Ils sont en train de pousser les gens vers une alimentation carnée, ce que le pays ne peut pas se permettre. » Une autre femme, Maneka Gandhi, députée et ancienne ministre de l'Environnement, pense, elle, que l'alimentation intensive de la volaille et du bétail, que les fast-foods encourage, aura des graves conséquences sur la capacité de l'Inde à se nourrir. Dans un texte présenté au Parlement en 1995 déjà, elle dénonçait comme du gaspillage l'utilisation du maïs pour nourrir les poulets, directement consommés par l'homme, au lieu d'être donnés à des animaux pour produire de la viande, du lait ou des œufs, les céréales pourraient nourrir 5 fois plus de personnes. En outre, l'eau nécessaire à la production d'une demi-livre de poulet représente 20 fois ce qu'une famille indienne utilise normalement par jour, si tant est qu'elle a accès à l'eau. Une étude de l'Anthropological Survey of India montre que les 3/4 des Indiens mangent occasionnellement de la viande, mais qu'ils en consomment 5 fois moins que les Occidentaux. Il est donc difficile de déterminer si oui ou non les multinationales modifieront les habitudes alimentaires indiennes. Mais en tout cas, leur impact sur l'agriculture locale est, elle, indéniable. Ainsi, il y a le système de l'agriculture sous contrat, système par lequel une société commande et achète toute la production d'un certain nombre d'exploitations qui est très fréquente en Inde. Par exemple, la Pepsi Food, filiale de Pepsi Cola, contrôle depuis 15 ans la récolte d'un millier de fermes du Punjab. En 89, la multinationale a ainsi ouvert une fabrique de jus de tomates pour les Pizza Hut du monde entier. Les détracteurs de ces systèmes disent que l'agriculture sous contrat augmente la dépendance envers les semences importées et qu'en écartant les milliers de variétés cultivées localement, elles perturbent l'agriculture traditionnelle. Pour Maneka Gandhi, il faut que le gouvernement interdise purement et simplement l'implantation des chaînes de restauration rapide étrangères en Inde, parce qu'elle ne voit pas du tout en quoi le fast-food contribue au bien-être de l'humanité, ce avec quoi nous sommes d'accord. L'action est d'ailleurs été plus loin, puisqu'au début de l'année, des agriculteurs indiens ont mis à sac un restaurant du Kentucky Fried Chicken à Bangalore, une ville au sud du pays. Loin d'être un acte spontané et isolé, il s'agissait d'un mouvement de protestation politique et envoyait une onde de choc dans les états-majors des groupes de fast-food. Les manifestants étaient membres d'une association qui regroupe plusieurs milliers de cultivateurs et d'éleveurs de l'état de Karnataka. Ils demandent que la chaîne de fast-food se retire du marché indien. Toujours en Inde, féministes et intégristes s'associent, si l'on peut dire, pour protester contre la tenue en Inde, à Bangalore justement, de l'élection de Miss Monde. Après un jeune étudiant qui s'est immolé par le feu pour protester, une manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes pour protester devant l'hôtel qui héberge donc les 89 candidates à l'élection de Miss Monde. Élection prévue le 23 novembre. Les manifestants ont attaqué assez durement l'hôtel. Ils ont été fortement réprimés par la police anti-émeute. Plus de 44 000 personnes ont été arrêtées. Les manifestants, en majorité des femmes, ont été dispersés à coups de bâton et emmenés au commissariat de police. On vient d'apprendre que malgré ces protestations, le gouvernement indien a décidé d'aller de l'avant et d'autoriser cette élection de Miss Monde. Venezuela, le prochain président sera peut-être une présidente, une ex-Miss Monde. Deux ans avant l'élection présidentielle, des noms de candidats potentiels émergent déjà. Mais il en est un qui se démarque nettement dans les sondages, celui d'Irene Saez, qui recueillerait, selon les sondages, les suffrages de 43% des personnes interrogées, alors que le prochain candidat n'obtient que 10%. Si la tendance se confirme, le prochain locataire du palais présidentiel de Miraflores ne sera pas un ancien président, comme semble être la règle, mais ça pourrait être une présidente Miss Univers. À 33 ans, Irene Saez demeure, bien sûr, cette fameuse blonde explosive qui avait convaincu les jurés à l'élection de Miss Venezuela en 80 et celle de Miss Univers en 81. Pourtant, ce n'est pas son physique qui a ébloui les électeurs vénézuéliens, mais ses qualités de gestionnaire. Elle les a mises en pratique durant deux mandats successifs de maire dans une banlieue, une municipalité plutôt riche d'un million d'habitants, Chacao, un quartier riche de Caracas. Sous la devise « Ordre, sécurité, propreté », Irene a fait de Chaco le seul quartier de la capitale vénézuélienne, mais peut-être même la seule commune du pays, assez bien gérée, plutôt même bien. Ce qui, bien entendu, dépasse de loin les résultats de la quasi-totalité des présidents vénézuéliens. L'ancienne reine de beauté ne verse pas dans l'avantardise, comme le ferait n'importe quel homme politique ou professionnel. Bien au contraire, elle avoue, avec une franchise étrangère à ses congénères, ne pas connaître grand-chose aux affaires de l'État, mais se poser beaucoup de questions. Un candidat à la présidence qui se pose des questions au lieu d'apporter les réponses, on aura tout vu. Là, les électeurs vénézuéliens tiennent un trésor unique au monde. Et elle continue de dire, je cite, « Le vrai serviteur de l'État ne doit jamais oublier qu'il a deux oreilles, mais une seule bouche. » Fin de citation. En tout cas, Madame Saez, non seulement a été Miss Monde, elle a également étudié les sciences politiques à l'Université centrale de Venezuela, et entendre une telle déclaration de principe dans la bouche d'un serviteur de l'État, ça c'est vraiment explosif. Et qui sait, dans deux ans, peut-être sera-t-elle la prochaine présidente au Venezuela. En Côte d'Ivoire, des militantes féministes se lutte pour libérer une jeune fille emprisonnée pour avoir tué son mari qu'on l'avait forcé à épouser. Il s'agit de Fanta Keita, 15-16 ans, on ne sait pas très bien, qui se trouve en maison d'arrêt centrale à Abidjan. Elle attend d'être jugée, sans doute en décembre prochain, pour le meurtre de son mari. Mariée de force, révoltée jusqu'au meurtre, Fanta Keita reçoit régulièrement la visite des militantes féministes ivoiriennes de l'Association pour la défense des droits des femmes. Ces féministes voudraient faire du cas de Fainta un cas exemplaire. Fainta raconte que donc on l'a forcée à se marier, elle avait 15 ans, selon son père, peut-être même était-elle plus jeune. Un jour, son père lui a annoncé son mariage, elle s'est laissée habiller pour la cérémonie coutumière qui a eu lieu dans son village. Puis le lendemain, le couple est parti pour un faubourg populaire d'Abidjan. La première nuit, son mari l'a laissée tranquille, ensuite il a voulu consommer le mariage devant son refus, il l'a violée. Elle ne sait pas très bien combien de temps a duré son mariage. Elle a eu le temps de s'enfuir jusqu'à dans son village. Les hommes de sa famille l'ont battue, ramenée à son mari. Son père, qui avait perçu la dot payée par le mari, a accompli le pèlerinage à la Mecque. Quand il est revenu, Fainta Keïta avait tué son mari. Un soir, après un nouveau viol, elle l'a égorgé dans son sommeil avec un couteau de cuisine. Parce qu'elle avait fait aiguiser son couteau une semaine avant le meurtre, on a retenu la préméditation. Elle est donc inculpée d'assassinat. Rejetée par sa famille, elle est cependant défendue par un collectif d'avocats et elle commence à être au centre d'un mouvement d'opinion. Les militantes féministes n'ont pas manqué de faire un parallèle entre le cas de Fainta Keïta et celui de Véronica Kobé, la jeune femme ivoirienne émigrée en France, qui avait tué son employeur après avoir été violée sur intercession du président ivoirien Jacques Chirac, avait gracié Véronica Kobé en juillet. Reste à savoir si la justice ivoirienne voudra prendre les risques de la clémence. Les mariages forcés des très jeunes filles sont très courants dans plusieurs communautés. Ils sont rarement régularisés devant l'état civil, ils n'ont donc aucune valeur juridique, vont souvent de pair avec la polygamie que la loi ivoirienne ne reconnaît pas. L'adultère reste un délit, mais bien entendu, il n'est pas sanctionné. Aujourd'hui, le pays hésite entre l'adaptation de textes avec des projets de loi, par exemple, dépénalisant l'adultère, mais uniquement pour les hommes, projet qui a été retiré assez rapidement du Parlement, et une affirmation plus forte des droits des femmes, particulièrement dans le débat autour de l'excision, qu'un texte devrait bientôt mettre hors la loi. Aux États-Unis, la fornication peut mener devant le juge. Ce n'est pas seulement de dire ni que la police qui devient problématique, c'est même simplement de faire l'amour. En tout cas, quand on est jeune, quand on est adolescent et quand on n'est pas marié. Et surtout, quand de cet amour-là naît un enfant. Pour éviter les grossesses, chez les adolescentes, un comté de l'Idaho est ressorti de ses tiroirs une loi datant de 1921. Car un peu partout aux États-Unis, les autorités locales s'efforcent de réduire le nombre des grossesses chez les adolescentes. Ici, on renforce l'éducation sexuelle dans les lycées, là, on facilite l'accès aux contraceptifs. Ailleurs, on durcit l'application de la législation contre le viol. Un comté d'Orange, au sud de la Californie, encourage même une version moderne du mariage forcé, puisque dans certains cas, les pères majeurs ont le choix entre la prison ou épouser la mère de leur enfant, même si ni l'un ni l'autre n'ont envie. Dans le comté de Gem, en Idaho, le procureur Douglas Barry a dépoussiéré une loi de 21 qui interdit la fornication, ou pour prendre les termes officiels, les rapports sexuels entre deux personnes non mariées de sexe opposé. C'est donc, bien entendu, les jeunes femmes enceintes qui se retrouvent à être condamnées. Une personne, une jeune fille de 17 ans, Amanda Smizek, a déjà été condamnée pour être enceinte uniquement. Elle a été condamnée non pas à une peine de prison, mais à une mise à l'épreuve pendant 3 ans. Amanda Smizek et son petit copain sont astreints à suivre ensemble des cours d'éducation parentale, à terminer leurs études secondaires, à occuper ensuite un emploi, à ne pas consommer de drogue, d'alcool ou de cigarettes. En cas de violation de ces règles, une aide psychologique leur sera proposée plutôt qu'une peine de prison, mais la peine de prison reste toujours comme une épée de Damoclès. En Iran, élection d'une première femme à une position politique dans une ville, Zahra Sadrazam Nouri est la première maire iranienne. C'est bien une première depuis la révolution islamique de 79. Deux femmes, en fait, viennent d'être nommées à des postes de responsabilité. Zahra Sadrazam Nouri devient maire d'un des districts de Téhéran et une autre femme, non identifiée, occupera bientôt un poste de procureure adjointe. Zahra Zadramnouri était auparavant une directrice d'un centre culturel et professeur à Téhéran. Cependant, ce ne va pas être facile puisque le ministre de la Justice, l'ayatollah Mohamed Yazdi, a rappelé, je cite, que les dames travaillant dans le judiciaire ne peuvent pas présider un tribunal ou rendre des jugements. Elles peuvent être procureurs, mais sans juger. Car s'il est admis de débattre en Iran sur les droits des femmes, Yazdi a bien précisé que son pays ne devait surtout pas copier l'Occident. En Algérie, où les massacres et les assassinats continuent, Amnesty International vient de sortir un rapport qui dénonce les exactions des islamistes, mais également du pouvoir et des milices. Le silence et la peur, tel est le titre du dernier rapport d'Amnesty International sur l'Algérie. C'est plus qu'un simple rapport. Ce dossier, rendu public hier, raconte avec une précision clinique un pays qui entre dans sa cinquième année de ce qu'on peut vraiment appeler une guerre. La sécurité, la censure gouvernementale sur l'information, l'impossibilité pour les rares journalistes étrangers d'accéder à des milieux traditionnellement coupés de tout contact avec la presse font que nombre d'aspects de cette deuxième guerre d'Algérie sont de plus en plus mal connus, voire sciemment cachés. C'est le cas notamment d'une pratique de plus en plus répandue, les disparitions, qui touchent plusieurs centaines de personnes arrêtées par les forces de sécurité qui disparaissent, comme ont disparu trop souvent des militants de tous bords dans le monde entier, dans des dictatures, malheureusement, de sinistre mémoire. Les familles de ces disparus ne parviennent pas à obtenir de leurs nouvelles et gardent souvent le silence de peur de les mettre en danger. C'est le cas aussi des homicides, des prisonniers ou de la criminalisation des différents protagonistes de cette guerre. L'organisation humanitaire n'épargne aucune des parties en conflit islamistes, milices, armées par le gouvernement et forces de sécurité. Selon Amnesty, je cite, il y a plusieurs faits que l'on cherche à occulter. Il est de plus en plus difficile d'établir l'identité et les motivations des responsables des tueries et d'enlèvements. Les forces de sécurité, les groupes armés d'opposition adoptant fréquemment le même type de comportement et souvent se déguisant l'un dans l'autre. Homicides, tortures, enlèvements sont commis au nom de la lutte antiterroriste, parfois au nom de la guerre sainte. Amnesty montre en fait combien la population civile est de plus en plus entraînée dans cette guerre où la prolifération et l'éclatement des groupes armés et des milices ajoutent encore à la confusion et au chaos. Plusieurs cibles donc sont mises en avant, plusieurs groupes sont accusés, les groupes islamiques bien sûr, qui prennent de plus en plus souvent comme cible les épouses et les proches des membres des forces de la sécurité, mais ils continuent à terroriser également la population civile par des attentats aveugles, des assassinats, des menaces de mort individuelles par courrier, téléphone, menaces de mort collective également par tract ou communiqué affiché sur la mur, qui contraignent des milliers de personnes à quitter leur domicile, souvent par exemple les journalistes ou des artistes. Mais Amnesty n'est pas non plus tendre à l'égard des forces gouvernementales qui ont, je cite toujours, très fréquemment recours aux exécutions pour éliminer des suspects, venger la mort de leurs membres tués par des groupes armés, intimider ceux qui seraient tentés de les soutenir ou pour éviter des arrestations. Même dénonciation des milices armées par le gouvernement. Apparues depuis 2 ans, notamment dans les régions rurales, préférant être appelées patriotes, elles sont en principe, je cite, chargées de défendre leur village contre les groupes armés, mais participent de plus en plus à des opérations dites antiterroristes, sans avoir à répondre de leurs actes et en dehors du cadre de la loi. Le bilan d'une telle prolifération des armes est simplement effrayant. La société tout entière est touchée. L'état de droit n'existe plus en Algérie, où règne une atmosphère de terreur. Fin de citation. En tout cas, la publication de ce rapport à 2 semaines du référendum sur la révision constitutionnelle met en tout cas à mal le discours des autorités qui affirment que depuis 4 ans, la situation est plus sûre en Algérie, que la situation sécuritaire s'est améliorée. Si elle semble plus contrôlée dans les grandes villes qu'au cours des années 94-95, les violences ont rarement atteint le niveau qu'elles ont aujourd'hui, notamment à l'intérieur du pays. Oh, Shiri Makono, ah, Yerevi Makono, Didi Shiri Makono, ah. En Allemagne, condamnation pour la pirate de l'air palestinienne qui, en 1977, avait détourné sur Mogadiscio un avion de la Lufthansa. Elle a été condamnée à 12 ans de prison ferme à Hambourg. Souyala Andrawes, 43 ans, militante du Front de libération de la Palestine, a été reconnue coupable du meurtre du pilote de l'avion, bien qu'elle assure qu'il a été tué par le leader du commando terroriste décédé depuis lors. Condamnée en Somalie à 20 ans de prison en 78, Souyala Andrawes avait été mystérieusement libérée au bout d'un an. Depuis 1991, elle vivait en Norvège sous un faux nom. Arrêtée en 1994, extradée l'an dernier en Allemagne, elle pourrait purger sa peine en Norvège, où vivent son époux et sa fille. En France, le ministre de la Justice Toubon vient de sortir une nouvelle loi contre un avant-projet de loi plutôt sur la prévention et la répression des délinquants sexuels. Pour Toubon, il faut rendre les soins obligatoires. Donc, cette loi oblige aux soins. Elle oblige aux soins à la sortie de prison. On aimerait également que des soins soient dispensés à l'intérieur de la prison. On sait qu'ils sont essentiels pour qu'un traitement à la sortie soit valable. Mais pour l'instant, cette mesure serait un vœu pieux parce que, en fait, il est impossible, il n'y a absolument pas de personnel pour faire ce type de prise en charge et de formation à l'intérieur du milieu carcéral. Donc, en attendant, les principaux points de la loi, c'est que la peine complémentaire et donc de suivi médico-social consiste pour le condamné dans l'obligation de se soumettre sous le contrôle du juge à un traitement, que s'il ne se soumet pas, il est remis en prison pour 3 ans ou 5 ans et que le secret médical est levé dans la mesure où la personne arrête ses soins. Le médecin en réfère immédiatement au juge qui peut donc ordonner l'arrestation du condamné ou de l'ex-condamné. Autre disposition qui devrait être plus consensuelle, le tourisme sexuel fera l'objet d'une clarification de la loi. Il existe des dispositions, mais elles sont mal connues, très peu appliquées. Ces dispositions permettent de punir ceux qui, à l'étranger, se sont autorisés des amours pédophiles interdites en France. Enfin, les peines sont aggravées en cas de diffusion d'images pornographiques de mineurs et de détention de ces images sera également sanctionnée, même si c'est à titre privé. Un autre volet important de cette loi, c'est la prévention. Quelles sont les mesures? Beaucoup de propositions des associations ont été retenues, par exemple, d'afficher le numéro vert de l'enfance maltraitée obligatoirement dans tout lieu où il y a des enfants. Chaque région sera également dotée d'antennes spécialisées dans les hôpitaux pour l'accueil et les soins des enfants victimes de maltraitance. Des mesures devraient aussi être prises pour améliorer l'accueil des enfants dans le labyrinthe judiciaire. Les abus sexuels et les mauvais traitements à enfants seront inscrits dans la liste des thèmes prioritaires de la formation des personnel spécialisé. Pour les associations qui bataillent depuis longtemps pour faire entendre la voix des enfants, c'est un début de victoire. En France, une étude montre comment les femmes acquièrent la bosse des maths, ou bien est-ce que la question est de savoir si cette bosse est innée ou bien transmise. En tout cas, on s'est intéressé aux femmes qui font des études poussées, entre autres aux femmes qui font l'école normale. L'école normale étant une des écoles les plus prestigieuses en ce qui concerne les sciences. La recherche, en tout cas, est très nette et très claire et très intéressante, puisqu'elle montre que, en fait, ce sont les mères qui poussent les filles, c'est l'influence maternelle qui joue dans la réussite des filles en maths et en sciences. Cette étude est partie du moment où l'école normale supérieure, qui n'était donc réservée qu'aux garçons, a été réunie à celle de Sèvres, qui était que pour les filles. Au moment où elles ont fusionné, on a assisté à un essor sans précédent des carrières féminines dans l'enseignement supérieur. Mais cependant, le nombre des jeunes filles reçues au concours de maths et de physique a chuté de façon absolument radicale. On s'est demandé pourquoi est-ce que les filles étaient vraiment si bêtes. Et c'est pourquoi on s'est intéressé à la carrière, si on peut dire, des filles qui finissent en normale. Et c'est du côté de la famille qu'on est allé chercher et les chercheuses sont venues à analyser le rôle des parents dans la fabrication des normaliens scientifiques. Pour les garçons comme pour les filles, l'influence des modèles de femmes scientifiques dans la famille apparaît considérable. Mais cette influence est incontournable pour les filles qui vont faire normal, qui ont ainsi réussi à concilier l'image de la féminité avec celle des sciences. Que la mère soit issue d'une famille de scientifiques, qu'elle soit diplômée en sciences, ou frustrée de ne pas avoir fait de sciences, ou en quête d'ascension sociale, on voit toujours une transmission mère-fille du goût pour les sciences. Dans certaines familles, cet attrait des femmes pour les mathématiques remonte d'ailleurs sur plusieurs générations. Cette étude apporte un éclairage complémentaire sur les inégalités face à l'école. Aujourd'hui, on sait pourquoi l'élite scolaire se recrute principalement dans les milieux très bien dotés culturellement et économiquement et comment fonctionne la domination masculine dans le secteur des sciences dures. Mais c'est la première fois que les sociologues se penchent de façon aussi fouillée sur l'héritage maternel. En Suisse, la révision de l'AVS avait fait plaisir aux femmes. Enfin, on tenait compte de l'effort qu'elles avaient fait pour élever des enfants. Eh bien, il faut déchanter. Bien sûr, le bonus éducatif versé par l'AVS ou la vie reste toujours là, mais il n'est réservé que pour les femmes divorcées, et toujours divorcées, et encore divorcées, qui ne restent tout le temps divorcées. Celles qui, par exemple, se remarient avant perdent ce droit. Le tribunal fédéral des assurances a ainsi débouté une retraitée qui perd plusieurs centaines de francs par mois. Cette assurée, qui avait été une des premières à bénéficier du bonus éducatif, mais quelques mois après, elle s'était remariée. Avec quelqu'un d'ailleurs qui est mort peu après. Informée du remariage et du veuvage, l'assurée, la caisse donc, de compensation AVS, avait supprimé tout droit au bonus et même exigé la restitution pour les bonifications versées après le mariage. L'arrêté fédéral entré en vigueur donc le 1er janvier 1994 réserve l'avantage du bonus éducatif aux seules femmes divorcées, précise le tribunal fédéral des assurances. Les femmes célibataires avec des enfants, les femmes remariées ou les veuves en sont exclues. Ha ha ha, bien fait pour vous. Et pour terminer, j'aimerais juste vous donner un rendez-vous. Les femmes en noir qui, depuis des années, se sont rassemblées pour protester contre la guerre en ex-Yougoslavie, vous invitent le samedi 30 novembre à 17h à une conférence sur les centres de soins médicaux. Centre de soins mis en œuvre en ex-Yougoslavie pour les femmes victimes des violences de la guerre. On pourra voir un film qui a été fait par deux jeunes femmes allemandes, Dagmar Schulz et Ika Kugel de Berlin, sur la rencontre qui a rassemblé cette année, mais comme chaque année, des femmes antinationalistes de l'ancienne Yougoslavie, mais aussi des femmes qui les soutiennent partout en Europe, Grèce, Italie, Turquie, Espagne, etc. Ça a lieu donc le samedi 30 novembre à 17h, salle de conférence du Bureau de l'égalité, c'est 2 rue de la Tannerie, 1227, Carouge. Bonsoir, dans quelques instants, Marjolaine vous ouvre son cœur.
dans